Bonjour à toutes et à tous. Deux cercueils tricolores et des centaines d'anonymes qui se succèdent depuis hier pour leur rendre un hommage intime. Avant la grande cérémonie de demain au Panthéon, les dépouilles de Simone Veil et de son époux Antoine reposent depuis hier donc au mémorial de la Shoah à Paris, un lieu ouvert à tous pour l'occasion et très cher à celle qui, survivante elle-même des camps de la mort nazie, y avait inauguré en 2005 le mur qui porte le nom de 76 000 déportés juifs français. Sur la mémoire de l'Holocauste comme sur de nombreux combats politiques qui ont rythmé sa vie, Simone Veil avait donc su jouer le rôle d'une pionnière. C'est ce que retient d'elle le directeur du mémorial de la Shoah, Jacques Frege.
Simone Veil, sur ce plan-là, était visionnaire. C'est-à-dire qu'elle avait, avant tout le monde, je pense, cette idée que, inéluctablement, les témoins allaient disparaître. Et qu'il fallait absolument prévoir ce moment-là et prévoir des relais qui permettraient à cette histoire de ne pas tomber dans l'oubli. Et donc Simone Veil était très attachée à la mise en œuvre de ces relais. Donc elle avait suivi avec grand intérêt les travaux d'agrandissement du mémorial. J'ai eu plusieurs visites de chantier ici avec elle. Elle était vraiment intéressée, y compris au détail. Et Simone Veil a été décisive pour nous pour faire évoluer, je dirais en quelque sorte, institution. De toute façon, dans tous les combats qu'elle a eus, je crois que son expérience d'Auschwitz, de cette espèce humaine qui était capable de tout, du meilleur et du pire, l'habitait en permanence et elle savait très bien qu'elle n'était pas angélique sur la nature humaine et donc elle pensait néanmoins que c'était absolument fondamental que cette histoire de la Shoah soit rappelée en permanence, qu'on ne puisse pas la nier parce que le négationnisme était aussi quelque chose qui l'inquiétait, hein, qu'on puisse remettre en cause les fondements de cette histoire, mais aussi que cette histoire puisse ouvrir vers d'autres combats.
Jacques Frege au micro de Tiffen. Honoré, cette cérémonie de panthéonisation de Simone et Antoine Veil se déroulera donc demain matin avec un discours d'hommage d'Emmanuel Macron prévu à 11h30. La limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau routier secondaire en France entre en vigueur demain 1er juillet. Les détracteurs très nombreux de cette mesure mobilisent à nouveau ce samedi partout en France dans des manifestations. Et pourtant hier, Édouard Philippe a redit sa détermination à faire appliquer cet abaissement de la vitesse limite malgré son impopularité. Le but n'est pas d'emmerder le monde, a déclaré le Premier ministre, s'inspirant de son lointain prédécesseur Georges Pompidou. Il indique également que les policiers et gendarmes seront conciliants dans un premier temps au moment de verbaliser. L'actualité judiciaire marquée par ce procès hier au palais de justice de Paris, procès d'une Française interpellée à son retour de Syrie. Claire Casser, mère de 6 enfants, a été condamnée à 7 années de prison, dont la moitié en peine de sûreté. La procureure avait requis 8 ans ferme pour une femme dont les motivations à rejoindre Daesh sème une fois de plus le trouble sur les profils de djihadistes françaises. Florence Turm.
Étrange profil que celui de Claire Casser qui tranche avec la plupart des autres jeunes femmes parties en Syrie, sans doute plus marginale que radicalisée. Elle a 42 ans aujourd'hui, 6 enfants de 3 maris différents, 6 garçons dont un prénommé Djihad et le dernier issu de sa très brève union avec Oumar Diav, considéré comme un cadre important du groupe État islamique mais qu'elle croyait, affirme-t-elle, un simple combattant. Voix grave, plutôt prolixe, elle raconte une adolescence à la dérive, à 17 ans sa conversion à l'islam et au voile intégral, un départ pour l'Afghanistan, un autre en Algérie, puis la Syrie en mars 2015. « Je ne suis pas partie révolutionner le monde », lance-t-elle avec aplomb. « J'ai pas d'engagement politique, je serai jamais en accord avec les attentats, je m'en fous de l'État islamique. » Elle s'installe pourtant à Raqqa avec 3 de ses fils, mais sa relation avec Oumar Diav devient très vite conflictuelle. « Il ne me laissait pas sortir, passer sa vie sur Internet, me dénigrer continuellement, et ça, je supporte pas. » Au bout de 3-4 mois, elle le quitte enceinte pour rentrer en France, où elle sera interpellée un an plus tard, en raison des contacts qu'elle entretient toujours avec la mouvance radicale islamiste. Étrange parcours que celui de cette femme au caractère bien trempé, mais dont on cerne mal les motivations, comme si les choix de Claire Casser n'étaient qu'une succession de coups de tête. Une mère viscéralement attachée à ses enfants, en grande souffrance, dit-elle en pleurant, de ce que je leur ai fait subir.
Florence Turm, manifestation et affrontement hier avec les forces de l'ordre au Maroc, dans la région du Rif, le nord du pays, où des meneurs de la contestation sociale et politique dite du Hirak ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Parmi eux, il y avait le journaliste Hamid El Madawi qui a été condamné lui à 3 années derrière les barreaux pour avoir simplement couvert cette mobilisation qui s'est étendue de 2016 à 2017 dans le Rif marocain. Avant de passer à la météo sur l'Hexagone pour ce chaud samedi, nous partons en Asie du Sud où les inquiétudes se précisent autour des conséquences du réchauffement climatique sur l'économie. La Banque mondiale vient de publier pour la première fois un rapport sur le sujet. sujet et il est plus qu'alarmant. On y lit que le sous-continent indien va voir ses températures augmenter de près de 2 degrés d'ici 2050 et que cela va entraîner jusqu'à 14% de baisse de revenus pour les habitants de la région. Les détails avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcy.
On ne parle plus ici de cyclones, d'inondations ou des conséquences violentes du changement climatique. Ce rapport insiste sur les effets de l'augmentation des températures moyennes dans la région qui pourraient avoir un impact tout aussi dramatique. Des nuits à plus de 30 degrés, comme l'a vécu le nord de l'Inde ces dernières semaines, épuisent les travailleurs. Certaines cultures perdent en rendement et les moustiques de la dengue ou du palu se propagent plus facilement, ce qui a des conséquences sanitaires. Si l'accord de Paris de 2015 n'est pas respecté, certaines régions du Bangladesh pourraient connaître une chute de revenus par habitant de 14% et le centre de l'Inde de 10% d'ici à 2050. 800 millions de personnes de cette région seraient alors touchées par des vagues de chaleur difficiles à supporter. Un chiffre deux fois moins important si les émissions de carbone sont limitées. Pour Arjit Singh, responsable en Inde des questions de changement climatique dans l'ONG Action Aid, la politique agricole doit s'adapter rapidement.
La température dans la région augmentera de 1,5 degré quoi que l'on fasse. Cela est énorme et requiert une planification précise sur son impact, car l'agriculture va être bouleversée. Et si un endroit a ces 3 degrés de plus, cela est un scénario complètement différent où l'agriculture ne devient plus viable et où il est donc impossible de survivre.
La Banque mondiale recommande à l'Inde d'économiser son eau et d'offrir une meilleure éducation formelle à sa population pour la préparer à la crise agricole à venir.
Sébastien Farcy, tout est relatif, mais le thermomètre grimpe encore sur la France ce samedi. Le département du Rhône est en vigilance orange pour un premier épisode de canicule cet été. 35 degrés annoncés cet après-midi, prévoyez 33 à Paris, 30 sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, autour de 33 dans l'intérieur des terres. Merci à François-Charles Domergue qui réalisait les éditions de cette matinale. Merci également à Jacques Hubert à la console. À 12h30, vous retrouverez Mathieu Laurent.